La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Aujourd'hui, nous allons parler avec mon invité d'un sujet qui passionne beaucoup de gens, surtout les enfants d'ailleurs, tout en faisant parfois un peu peur, les trous noirs. Nous n'allons pas seulement parler des trous noirs en fait, mais aussi de tout ce que les astrophysiciens appellent les objets compacts, c'est-à-dire des astres très lourds, en général concentrés dans un très faible volume. Par exemple, les étoiles à neutrons, qui peuvent peser autant que 2 ou 3 soleils, sont concentrées dans une sphère dont le diamètre est de seulement quelques dizaines de kilomètres. Figurez-vous qu'un centimètre cube de la matière d'une étoile à neutrons peut peser 1 milliard de tonnes. Mais si on en revient au trou noir, il faut savoir qu'il en existe de toutes sortes et de toutes dimensions, depuis les micro-trous noirs tout petits jusqu'aux méga-trous noirs, ceux qui se trouvent au centre des galaxies, qui peuvent avoir la masse de milliards de soleils et des diamètres de milliards de kilomètres. Alors comment sait-on tout ça ? Aussi étrange que ça puisse paraître, les êtres humains, chercheurs, ingénieurs et techniciens, ont réussi à fabriquer des instruments capables d'observer tout ça. Et ils en ont d'autres en programmation. J'ai avec moi aujourd'hui Didier Barret, qui est directeur de recherche au CNRS, à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse, rattaché à l'Université Paul Sabatier et l'Observatoire Midi-Pyrénées. Bonjour Didier.
Bonjour Sylvie.
Son activité de recherche est centrée sur les astres compacts, les trous noirs et les étoiles à neutrons, et il les étudie grâce à des observations aux rayons X et gamma, comme il va nous l'expliquer. Il prépare actuellement une mission spatiale appelée Athéna, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne, dans le but de mieux comprendre tout cela. Il faut savoir que la préparation d'une mission spatiale est une très longue affaire qui dure parfois plusieurs dizaines d'années. Celle-ci est programmée pour un lancement au début des années 2037. Nous en parlerons en détail dans une prochaine émission. Mais auparavant, nous devons présenter ces astres célestes bizarres. Et pourquoi il est intéressant de les étudier. Alors Didier, si on parlait d'abord des trous noirs, des preuves de leur existence, de leur dimension, et aussi de ce qui se passerait si on tombait dans un trou noir, car ce sujet alimente beaucoup l'imaginaire des auditeurs. Alors c'est quoi un trou noir ?
Alors un trou noir, c'est un objet qui nous fascine, nous autres astrophysiciens. C'est un objet qui est tellement dense et dont la gravité est si extrême que rien ne peut s'en échapper, ni la matière, ni le rayonnement.
Alors la lumière s'en échappe pas et pourtant on les observe.
Alors ce que l'on observe, c'est la lumière qui est produite par la matière qui tombe sur le trou noir.
Oui, parce que en fait, la matière tombe et même en tournant, et elle produit des rayons très énergétiques, bien plus énergétiques que la lumière visible, hein, les rayons X et gamma, c'est ça ?
Tout à fait. En fait, la matière qui tombe dans un trou noir s'organise sous la forme d'un disque, une espèce de disque dans laquelle la matière, plus elle s'approche du trou noir, plus elle s'échauffe, plus elle atteint des températures très très élevées, des dizaines de millions de degrés, et elle émet un intense rayonnement X, et c'est à partir de ce rayonnement X que nous, on étudie les trous noirs.
Et alors il y a donc, comme je disais tout à l'heure, des énormes trous noirs au centre des galaxies, il y en a un au centre de la nôtre, et en fait on l'a même observé ce trou noir, on ne voit pas le trou noir, mais on voit le négatif du trou noir, c'est-à-dire vraiment quelque chose de noir au milieu d'un grand nuage lumineux.
Tout à fait. Alors dans l'univers il existe différents types de trous noirs qui sont en gros classifiés par rapport à leur masse. Alors, on pense qu'au tout début de la formation de l'univers, il y avait des trous noirs primordiaux, des tout petits trous noirs.
Comme des particules.
Quasiment des tout petits trous noirs qui ont peut-être disparu par évaporation. Après, on a des trous noirs stellaires qui, eux, résultent de l'effondrement, de l'explosion d'étoiles très massives, 10, 20, 30 fois, même 100 fois plus massives que le Soleil. Après, on a des trous noirs dits supermassifs, c'est ceux qu'on rencontre au cœur des galaxies. La nôtre n'est pas une exception, elle possède un trou noir qui pèse à peu près 4 millions de masse, de masse solaire, ouais, de la masse du Soleil. Et c'est effectivement l'ombre de ce trou noir qu'on a été capable d'observer très récemment.
Attends, 4 millions de Soleil et un diamètre 20 millions de kilomètres, quelque chose comme ça.
Exactement, donc c'est 4 millions de fois la masse du Soleil compacté dans un rayon très petit, très très petit.
On ne risque pas de tomber dedans, hein, parce que les gens ils se posent toujours la question.
Non.
Pas maintenant en tout cas, hein. Peut-être enfin dans les... dans la très, fin de la galaxie.
Dans très longtemps, mais d'ici là, il est possible que le Soleil ne brille plus. Mais et il existe aussi une autre catégorie de trous noirs qui est très intéressante, c'est les trous noirs dont la masse est située au milieu entre les trous noirs stellaires, donc qui font quelques fois la masse du Soleil, et les trous noirs dits supermassifs qui peuvent faire jusqu'à 1 milliard de fois la masse du Soleil. Alors ce sont des trous noirs qu'on appelle intermédiaires, et ils ont un intérêt d'abord parce qu'on pense qu'ils puissent être les briques de base pour fabriquer les gros trous noirs. Donc on parle de trous noirs qui font 100 000 fois la masse du Soleil, typiquement.
Donc étudier, ça fait partie des objets célestes que vous étudiez, les trous noirs de masse intermédiaire et aussi les trous noirs de masse stellaire. Donc les trous noirs de masse stellaire, ça permet de mieux comprendre le fonctionnement des étoiles et la fin de l'existence des étoiles. Et les trous noirs de masse intermédiaire, de mieux comprendre comment se forment les gros trous noirs au centre des galaxies, c'est ça ?
Exactement. Et nous, une de nos principales activités de recherche, c'est justement d'étudier ce rayonnement qui est produit très près du trou noir, dans ces fameux disques d'accrétion, donc ce rayonnement X, pour justement voir comment la matière se comporte dans le champ de gravité des trous noirs. Ça, c'était une activité de recherche qu'on a menée avec mon équipe pendant des années à l'IRAP et toujours à l'aide de télescopes spatiaux qui observent dans le domaine des rayons X. Les rayons X sont des rayonnements très énergétiques qu'on utilise en médecine, et ces rayonnements X sont absorbés dans l'atmosphère, donc on est obligé d'aller dans l'espace pour les détecter.
Donc en fait, c'est à partir de ce qui se passe à l'extérieur du trou noir qu'on peut avoir des informations sur le trou noir lui-même. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. J'ai envie d'insister un tout petit peu là-dessus parce que j'ai vu récemment un documentaire de la NASA, comment on verrait le monde depuis l'intérieur d'un trou noir. Alors je voudrais dire quand même que quelquefois, enfin, il faut un petit peu discerner sur ce qui est raconté au grand public, parce qu'en fait on n'en sait rien du tout, c'est que de l'imaginaire de savoir comment peut être le monde si on était à l'intérieur d'un trou noir. De toute façon, ce n'est pas possible qu'on y soit.
Non, exactement. Et puis pour nous, un trou noir est associé à ce qu'on appelle un horizon, au-delà duquel
On ne voit rien, on n'a pas d'information.
Et il n'y a plus d'information qui est restituée dans l'univers qu'on on peut observer. Oui. Donc il y a une frontière, et au-delà de cette frontière, qu'est-ce qui se passe ?
On ne peut que d'avoir de l'imaginaire, voilà. Mais il faut vraiment faire la distinction.
Exactement.
Donc on reparlera de tout ça la semaine prochaine à propos de la mission Athéna, mais il n'y a pas que les trous noirs que vous étudiez en fait. Si on parle de trous noirs stellaires, donc comme tu as dit, ce sont des trous noirs, c'est ce qui arrive après une explosion d'étoiles très 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 massive. Mais si l'étoile est un petit peu moins massive, du coup, c'est pas un trou noir qu'on a à la fin.
Voilà, c'est si l'étoile qui va vivre sa vie, disons, fait moins que 8 ou 10 masses solaires, 10 fois la masse du Soleil, elle ne va pas exploser et former un trou noir.
Il n'y a pas assez de masse pour la concentrer.
Exactement.
On peut peut-être dire quand même que pour obtenir un trou noir à partir d'une étoile, par exemple, il faut que la matière de l'étoile soit concentrée vraiment à l'intérieur d'un rayon très petit. Et pour ça, il faut beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour
la
concentrer.
Exactement, beaucoup de masse pour concentrer, pour compacter le noyau de l'étoile et en faire un trou noir.
Et si l'étoile n'est pas assez massive, elle n'y arrive pas.
Elle n'y arrive pas, donc elle fait, au lieu de produire un trou noir, elle va produire une étoile à neutrons. Donc c'est une étoile qui est quand même extrêmement dense, hein, comme tu disais. J'ai l'image qu'une cuillère à café d'une étoile à neutrons représente à peu près la masse des immeubles de Paris. Donc c'est juste pour dire que c'est des objets très denses.
Ouais, tous les immeubles.
C'est deux fois la masse du Soleil qui est compactée dans un rayon de 10 à 20 km.
Mm.
Et justement, nous, une de nos activités de recherche dans mon groupe était d'essayer de comprendre dans quel état la matière était à l'intérieur de ces étoiles, quoi. Parce que les densités sont tellement élevées. Que...
Une étoile à neutrons, est-ce qu'elle émet de la lumière, elle ?
Alors, pareil, l'étoile à neutrons, si la matière tombe sur l'étoile à neutrons, elle s'organise sous forme d'un disque, et ce disque émet un rayonnement X que l'on peut observer. Mais mieux, à l'inverse du trou noir, elle possède une surface solide.
Ah.
Et cette surface solide va être chauffée aussi par la matière qui tombe sur l'étoile à neutrons et émettre aussi un rayonnement X.
D'accord.
Donc on peut mesurer les propriétés des étoiles à neutrons par différentes sondes. L'émission, la lumière qui est produite dans le disque, dans la matière, de la matière qui tombe, et la lumière qui est produite à la surface de l'étoile.
Donc en fait, une étoile très très massive, elle s'effondre complètement, il n'y a plus qu'un trou noir. Une étoile un peu moins massive, elle ne s'effondre pas complètement, ça s'arrête à un certain moment, mais c'est un objet extrêmement compact. Non. Et le Soleil, alors à la fin de sa vie, est-ce qu'il deviendra l'un ou l'autre ?
Alors le Soleil n'est pas assez massif pour fabriquer, pour terminer en étoile à neutrons. Le Soleil va terminer sa vie dans quelques milliards d'années pour former ce qu'on appelle une naine.
Il y a d'abord toute sa masse extérieure qui s'en va, ça c'est important parce que ça va aller même plus loin que le système solaire.
Exactement.
Et au centre, il va rester...
Une naine blanche, et
voilà.
Puis ça va donner lieu à une nébuleuse planétaire magnifique.
Ça va être beaucoup plus calme parce que pour avoir les grosses étoiles qui terminent leur vie en étoiles à neutrons ou en trous noirs, elles explosent, tandis que le Soleil n'explosera pas.
C'est
là, ça va se faire très très calme.
Ça va être un oignon qui s'épluche et ses couches externes vont balayer.
Bon, un oignon qui s'épluche, j'espère que ça ne va pas nous faire pleurer, mais de toute façon, on ne sera plus là.
Bon,
merci Didier, on va se revoir la semaine prochaine pour discuter un petit peu plus en détail de la mission Athéna, donc pour mieux observer ces étoiles à neutrons et ces trous noirs. À bientôt.
Merci Sylvie.